over. The Blazers come from 23 down in one quarter to defeat the Mavericks and even the best of seven series at two apiece. You've just seen history.
Bonjour et bienvenue à tous dans ce tout nouvel épisode de The Natural Podcast. Aujourd'hui, grosse vidéo, gros podcast prévisionnel, on va dire, on va appeler ça comme ça, où je vais faire tout simplement le classement de la Conférence Ouest. Donc c'est la première vidéo sur deux, hein, évidemment, Conférence Ouest, puis la Conférence Est. On va parler des équipes un petit peu, on va essayer de passer rapidement sur chacune d'entre elles, expliquer les changements, pourquoi je les place à cet endroit-là. Pour cela, on va commencer par la 15e place jusqu'à remonter à la première place. C'est de la saison régulière. Je ne dirais ni mon gagnant, parce qu'en fait, j'ai l'impression de me projeter beaucoup trop loin, ni potentiellement le MVP, Depoy et tout ça. On fera ça au cours de la saison. Là, les effectifs sont quasiment tous construits. Hein. On a encore des doutes sur le fait qu'Harden ou Damian Lillard soient encore dans leur équipe respective. Surtout Damian Lillard, là, vu qu'on parle de l'Ouest. Mais ça peut encore évoluer, donc cette vidéo sera peut-être déjà faussée avant sa sortie. Mais voilà, on va pouvoir commencer, hein. On va commencer du coup avec la 15e place. Si vous n'êtes pas abonné, abonnez-vous, on va commencer, allons-y. Du coup, avant de donner ma 15e place, je tiens aussi à dire que, comme c'est prévisionnel, il faut pas prendre le classement, même si c'est plus marrant de faire un classement, des prévisions du classement, il faut prendre plutôt la dynamique en compte. C'est-à-dire que oui, peut-être que l'équipe que je mets en 15 finira 13e, mais pour le coup, je pense qu'elle aura cette dynamique tout au long de la saison, une dynamique de tanking, hein, quand on parle des équipes à ce niveau-là. Pareil pour le play-in, c'est plutôt est-ce qu'ils vont réussir à aller au play-in, est-ce qu'ils vont avoir l'avantage du terrain pendant le play-in, est-ce qu'ils vont passer un tour. Enfin bref, faut voir ça comme une dynamique plutôt que simplement un jeu de placement, ce qui serait beaucoup moins intéressant, même si je trouve que le jeu, ou en tout cas ce genre d'exercice, est plutôt marrant à faire et plutôt intéressant. Il faut quand même pas prendre en compte trop le classement. Voilà, c'est juste comme ça que je voulais dire, je voulais juste énoncer cette vérité, et on y va. Donc en 15e place, donc dernier de la Conférence Ouest et potentiellement dernier de la NBA, j'ai décidé de placer mes chers Portland Trail Blazers. Donc, vous serez pas étonnés, je pense, hein, au vu de la dynamique de cette intersaison, au vu du fait que Damian Lillard est sur le départ. Évidemment, quand je les place 15e, je fais en sorte que Damian Lillard soit parti, ou en tout cas, il ne jouera pas avec cet effectif. J'en ai quasiment la certitude. On a un effectif du coup construit autour de Scoot Henderson avec Shaedon Sharpe et Anfernee Simons, à voir si les trois joueront à côté, c'est-à-dire que je pense que Shaedon Sharpe sera peut-être remplaçant au poste 2, même s'il peut faire quelques minutes au poste 3, je ne le conseille pas. On aura du coup Anfernee Simons toujours à ce poste qui n'est pas le sien, de numéro de poste 2 d'arrière, excusez-moi. On aura Jeremy Grant, peut-être le plus gros talent de cet effectif avec Anfernee Simons, et Yusuf Nurkic, qui malheureusement est encore là. Donc oui, des joueurs un petit peu confirmés quand même, hein, Anfernee Simons qui peut avoir par séquence le niveau All-Star, Jeremy Grant qui sort de sa meilleure saison statistique, mais ça ne suffira pas. Au poste 3, on aura sûrement Matisse Thybulle ou Shaedon Sharpe à voir. On a aussi des rookies comme Chris Murray et Ryan Rupert, bien évidemment. Jabari Walker, qui est un jeune en saison sophomore, qui sera très intéressant. Une équipe donc très jeune, hein, qui va faire tourner les jeunes, justement. Comme je l'ai dit dans d'autres vidéos, cette franchise est dans une impasse. Hein. Damian Lillard était trop vieux, c'est le moment de tout reconstruire. Mais surtout, cette franchise est dans un état un petit peu particulier, où on ne sait pas si ses dirigeants vont décider de vendre la franchise, notamment aux dirigeants de Nike. On était dans une situation quand même assez particulière où on ne voulait pas trop payer des contrats inutiles, où on ne voulait pas faire all-in sur des joueurs un petit peu, comment dire, calibre All-Star. En tout cas, on était assez frileux au changement. Mais à côté de ça, on ne voulait pas tout reconstruire et perdre la valeur pour la franchise d'un joueur comme Damian Lillard. Donc oui, ce choix a été fait lors de l'intersaison. Je pense qu'il était obligatoire tout simplement parce qu'il a été fait par Damian Lillard lui-même et pas par la franchise qui n'a jamais réussi ni à l'entourer, ni à prendre des décisions. Mais on a un nouveau départ. On a un nouveau départ avec trois jeunes joueurs qui ont pour, enfin, Scoot Henderson à 19 ans, Shaedon Sharpe 20 ans et Humphrey Simons 23 ou 24 ans, je crois. Enfin bref, des jeunes joueurs qui peuvent progresser, on va dire, plutôt sereinement pendant quelques années avant que cette situation en interne se règle et tout simplement peut-être créer une autre culture de franchise, plus vers la win, plus vers le titre. Potentiellement, c'est ce que j'espère infiniment, mais j'ai quand même du mal à croire. J'ai aucune confiance en cette direction, mais aussi en Chauncey Billups. Je sais que c'est un winner en tant que joueur. Je pense que les joueurs, les jeunes joueurs l'aimeront bien. Il peut potentiellement plus développer ses jeunes, mais dès que ça commencera à gagner des matchs, il ne faudra pas être trop dans l'attente comme ça a été le cas ces dernières années. Il faudra prendre des décisions fortes et je pense que licencier Chauncey Billups quand les jeunes deviendront de plus en plus matures et capables de gagner des matchs, ce sera une nécessité. J'ai rien contre lui en tant que personne, j'ai rien contre lui, mais j'ai vu ce dont il était capable, c'est-à-dire pas grand-chose, même si l'effectif n'était pas très profond. Il avait des joueurs pour faire tourner, il avait du talent à revendre. La direction a fait des choix aussi un petit peu calamiteux en termes de transfert, mais ça n'excuse rien. Donc oui, Portland va tanker cette année, va être 15e. Ils perdent d'ailleurs deux places, hein, ils passent de 13e à 15e, donc ce n'est pas exceptionnel non plus. On s'y attendait, c'est l'année 1 de la reconstruction, déjà beaucoup de talent, donc un avenir assez lumineux si tout se passe bien. Et puis tout ce qu'on va vouloir voir, hein, c'est des highlights, hein, du top 10 highlights avec Shaedon Sharpe et Scoot Henderson, Humphrey Simons, des gros shoots. Mais voilà, on va espérer juste une grosse progression pour Shaedon Sharpe et potentiellement un rookie de l'année pour Scoot Henderson. C'est d'ailleurs le plus gros truc que j'aimerais voir cette année pour Portland, c'est le rookie de l'année du côté de Scoot Henderson. Enfin bref, voilà, on va passer à la 14e place. Et en 14e place, on va prendre les San Antonio Spurs. Alors oui, on a un talent générationnel. Oui, Wemby est dans cette franchise. Oui, c'est un futur grand si tout se passe bien. Et pourtant, il ne gagne qu'une place par rapport à l'année dernière et tank toujours. On peut le comparer autant qu'on veut à des Tim Duncan ou à d'autres qui ont transformé cette franchise en un an. Le fait est que Wemby est bien plus jeune. Il n'a pas encore poli son jeu malgré le fait qu'il joue en professionnel depuis des années. La NBA, c'est un autre monde, notamment au niveau du physique et de la compréhension du jeu. C'est totalement différent de l'Europe ou des compétitions internationales. En plus de ça, il va se faire viser dès son premier match, dès les premières minutes sur le terrain, au vu de sa hype, tout simplement. Je pense aussi qu'il manque du talent à la main, que l'effectif est tout simplement très jeune. J'espère une grosse progression d'un joueur comme Devin Vassell, qui devienne propre et capable d'enchaîner les matchs, hein, parce qu'on sait que l'année dernière, il a été blessé. Il faut voir aussi la connexion entre Victor Wembanyama et Jeremy Sochan. Pour moi, Victor devrait jouer le poste 4, mais Jeremy, si on le met sur le banc, je pense que ce serait mauvais pour les deux, pour leur connexion, parce que c'est deux futurs brillants, on va dire, dans cet effectif de San Antonio. À la main, comme j'ai dit, c'est plutôt faiblard, hein. Trey Jones, que j'apprécie, mais qui est limité à mon sens. On a Cameron Payne qui est arrivé, qui est pareil, un joueur de fin de rotation pour une équipe qui va au titre, à voir combien de minutes on lui donnera. On a évidemment Sidy Cissoko, le deuxième français, qui doit faire ses preuves, qui jouera sûrement beaucoup de matchs avec l'équipe d'Austin de G-League, mais un gros défenseur, peut-être qu'il aura du temps de jeu, j'espère. Devonte Graham aussi au poste de meneur, qui, comme les trois autres meneurs, j'ai quand même du doute, hein, ça manque énormément de talent. Mais voilà, on a des choses qui sont mises en place dans cet effectif. Malachi Branham, à voir comment il se développe. Les Romeo Langford, Blake Wesley. Si vous suivez la NBA de loin, vous ne connaissez même pas ces noms et je pense que c'est normal. Évidemment, il y a aussi Keldon Johnson et je pense que ce sera le meilleur scoreur et potentiellement le meilleur joueur avec Victor ou avec Devin Vassell cette année. Je mettrai quand même une piécette sur Devin Vassell qui pour moi a passé un cap et dont la blessure l'a ralenti, mais il a quand même passé un cap en termes de propreté et d'efficacité et aussi de scoring aux trois niveaux, hein, tout simplement. Donc voilà, à voir. Je pense que Victor Wembanyama fera forte impression dès sa première année. Dans le cas où on ne le surcote, enfin non, pas le surcoté, mais plutôt dans le cas où on n'attend pas un joueur all-time à la manière d'un Luka Doncic dès son année 1. On sait que c'est un pivot, en tout cas un intérieur, au vu de sa taille, qu'il doit progresser et que les pivots et les intérieurs progressent moins vite ou en tout cas se développent moins vite. Ils arrivent plutôt vers leur leur forme finale, on va dire, vers les 24 ans, là où on sait que les extérieurs peuvent être déjà très forts dans un jeune âge. On verra ce que Victor donne. J'imagine bien une saison à 14 points de moyenne avec des pourcentages assez propres, sauf de loin, parce que on sait que ce n'est pas son jeu, à part ceux qui ne le connaissent pas et qui le prennent pour un Kristaps Porzingis français. Mais bref, une saison à 14 points de moyenne, 9 rebonds peut-être, 2 passes, 3 passes, et tout autant de contres, ça serait déjà énorme, surtout au niveau des contres. Hein, je pense qu'il peut être en année 1 déjà un des meilleurs contreurs de la Ligue. Évidemment, les stats ne sont pas ronflantes quand on parle comme ça, mais je pense que l'impact défensif et tout ce qu'il pourra projeter sur certaines séquences feront que les gens vont l'apprécier. Enfin bref, 14e place, pour moi c'est tout à fait logique, il ne faut pas s'attendre à ce qu'il fasse le play-in ou les play-offs en année 2 du projet ou en année 1 avec Victor, c'est pour moi totalement insensé de penser ça. Mais bref, on va continuer avec le top 13, et encore une fois, je suis désolé, mais aucune surprise de mon côté. On a les Houston Rockets qui gagnent eux aussi une place, passant de la 14e à la 13e place. Alors oui, gagner une place, c'est pas fameux, surtout avec les recrutements de cet été, avec l'arrivée au coaching d'Ime Udoka, qui pour moi sera bien plus performant que le coaching staff de l'époque, depuis 2-3 ans. Mais c'est une année de transition, c'est une année où les jeunes vont devoir apprendre à commencer à gagner. On est un peu sur Orlando d'il y a un an, à mon sens, enfin de l'année dernière en tout cas, de l'année qui vient de s'écouler, où on sent que cette équipe commence à avoir du fond de jeu, mais qu'il y a encore trop de jeunesse et d'inexpérience pour gagner tous les matchs. Je pense qu'il y a aussi un tri à faire dans les joueurs, ce qui est dommage, hein, parce qu'il y a beaucoup de jeunes talents qui doivent jouer dans cette équipe. On a quand même l'arrivée de Von Vliet qui va prendre directement la main. On verra les minutes d'Amen Thompson derrière lui, qui est un meneur aussi avec énormément de talent, pris dans le top 4, ce qui n'est pas rien. Kevin Porter Jr. qui joue meneur mais qui est plutôt arrière. On verra s'il joue derrière Jalen Green ou s'il est transféré autour de la saison. Cam Whitmore au poste d'ailier ou potentiellement d'ailier fort, qui a beaucoup chuté, qui doit prouver beaucoup de choses. Oui, des jeunes, des très jeunes. Kevin Porter Jr. je crois n'a que 22 ans ou 23 ans potentiellement. Cam Whitmore est un des joueurs les plus jeunes de la draft. Amen Thompson, pareil, il n'a jamais, tout simplement jamais joué avec des adultes. On a aussi le développement de Jabari Smith Jr. qui en Summer League a fait des cartons, qui a une année rookie, on va dire, en deçà des attentes, mais qui montre quand même de très belles choses, qui lui portera, je pense, le poste 4 à lui tout seul, hein. Je pense qu'il sera titulaire malgré son jeune âge. Alperen Sengun en 5, qui pour moi doit faire une sorte de deuxième breakout season, c'est-à-dire que ses stats ont évidemment augmenté entre son année 1 et son année 2, mais là il doit polir son jeu, essayer d'être plus présent défensivement, mais surtout offensivement. Il doit être le second meneur derrière Fred Van Vliet de cette équipe, en tout cas le second initiateur de jeu, peut-être pas dans la passe mais dans la création, je pense qu'il en est capable. J'aimerais bien que Jalen Green soit plus off-ball, qu'il apprenne en tout cas à être plus off-ball, ce qui va être compliqué parce que toute sa carrière il n'a pas eu à le faire. On a aussi Dylan Brooks qui arrive, à voir ce que ça donne, s'il a un impact positif ou négatif sur cet effectif. On sait que c'est un mort de faim, on sait que il a une grande gueule et que potentiellement il peut donner un petit peu d'énergie ou je ne sais pas comment dire, un peu de hargne à cet effectif. Mais tous les bons côtés que j'ai cités là, il peut avoir évidemment le côté contraire, c'est-à-dire prendre des shoots horribles, se prendre pour ce qu'il n'est pas, faire des déclats qui desservent tout l'effectif, hein. C'est pour ça que Memphis ne l'a pas conservé. Mais je pense qu'un back court, en tout cas des extérieurs, comprenant Fred Van Vliet, Jalen Green et Dylan Brooks, peut être très prometteur. Peut-être pas pour l'année prochaine, et encore, je les vois bien faire une saison à 28 wins, ou en tout cas, quelque chose comme ça, ce qui serait bien, parce qu'en fait, ça ferait déjà un tiers de plus que cette année. Mais voilà, je pense que c'est une année de transition, je pense qu'on ne sait encore pas ce que ça va donner pour beaucoup de joueurs. Hein. Là, j'ai sous les yeux Amen Thompson, Kevin Porter Jr. et Cam Whitmore. S'ils se développent comme on le pense et comme ils sont prévus à la draft, ça peut être très très fort comme banc, même en année 1. Mais voilà, Cam Whitmore est un trou noir, on l'a vu même en Summer League, il ne passe pas le ballon, il ne joue que pour lui. Amen Thompson n'a encore pour l'instant pas de shoot, n'a jamais joué avec des joueurs de ce niveau-là. Kevin Porter Jr., malgré le fait qu'il soit mis à un poste qu'il l'a toujours desservi, je pense, aux Rockets, est un gros perdeur de ballon, un joueur qui a des pourcentages au shoot qui sont parfois calamiteux et qui est pour moi tout simplement pas un meneur. On a aussi l'arrivée de Jeff Green. Jeff Green qui, j'en ai parlé pour Dylan Brooks, mais finalement c'est peut-être lui le vétéran qui va resserrer cet effectif, qui va tous les concerner tout simplement, qui va faire son rôle de vétéran. Ce qui manque dans des équipes aussi jeunes, c'est souvent de faire l'erreur de ne prendre que des jeunes et aucun vétéran. On a Jock Landale qui a fait des bonnes minutes, voilà. On a Tyree Eason qui potentiellement lui aussi pourrait avoir une belle breakout season, mais bref. Je vais pas faire le tour de l'effectif, vous le connaissez. Il a beaucoup évolué, mais Udoka va mettre en place un jeu peut-être beaucoup plus collectif, beaucoup plus léché et plus défensif, hein, parce que Udoka, on se souvient, aux Celtics, avait mis en place une défense collective et individuelle assez impressionnante, hein, qui l'avait emmené jusqu'en finale NBA. Enfin bref, à voir. Je pense qu'on est dans une saison de transition, que ça va être assez compliqué quand même de viser plus haut, peut-être le play-in, mais s'ils visent le play-in, pour moi c'est une grosse réussite en tout cas. Enfin bref, on va passer à la 12e place, et c'est la première équipe qui reste et qui ne change pas de place, c'est tout simplement, excusez-moi j'ai bugué, le Utah Jazz. Alors, le Utah Jazz, pourquoi il n'évolue pas ? On se rappelle quand même que cette équipe est en année 2 de son projet, qu'il monte des choses assez importantes, assez positives. Mais on sait aussi que cet effectif qui a récupéré du talent à la draft, qui a fait pour moi une des meilleures drafts de cette année en termes d'intelligence, a beaucoup rajeuni son effectif. Hein. Ils ont transféré leur cadre comme Mike Conley, comme ce genre de joueurs-là. Ils n'ont plus de meneurs pour moi réellement distributeurs et organisateurs. Ça va se partager entre Jordan Clarkson, Colin Sexton ou ce genre de joueurs. On a l'arrivée de John Collins qui est sur le même poste que Lauri Markkanen, à voir s'ils les font jouer à côté, parce qu'il y a Walker Kessler aussi qui était déjà en année 1 très impressionnant, avec un toucher proche du panier assez élite, avec une défense sur le panier encore une fois qui était impressionnante pour un joueur de son âge et qui on ne demande qu'à ce qu'il progresse tout simplement. J'ai eu beaucoup de mal avec cette phrase, mais vous m'avez compris. On a évidemment Lauri Markkanen, à voir s'il peut enchaîner 2 saisons comme l'année dernière à un si haut niveau de jeu, c'est-à-dire 25 points je crois de moyenne, c'était le MIP de la saison dernière. On a des joueurs comme Kelly Olynyk, Oshai Agbaji qui doivent encore mieux s'inclure dans le processus. Oshai Agbaji qui est encore un jeune joueur et qui doit progresser au shoot, il était vu comme un shooter pur lors de sa draft, il doit encore monter en pourcentage, monter en efficacité. Kelly Olynyk doit prendre le rôle de vétéran auprès des nouveaux jeunes, comme Taylor Hendricks, comme Keyonte George surtout, excusez-moi. Keyonte George qui a été l'un des meilleurs joueurs de la Summer League. Pour moi, c'est un de mes chouchous de tout simplement de cette draft. Il est comparé alors même qu'il a été drafté, je crois, en 17 ou en 16. Il a été comparé quand même à un certain Bradley Beal, à voir s'il arrive à répondre aux attentes, mais il a déjà montré de belles choses à la création de son shoot. Il est potentiellement un bon défenseur aussi, il faudra qu'il se muscle un peu. On a Bryce Sensabo, qui est un des meilleurs attaquants aussi de cette draft, mais uniquement attaquant pour lui. C'est un arrière ailier qui doit tellement progressé en défense et à la distribution, mais on a quand même énormément de jeunes talents qui sont arrivés. Talen Horton-Tucker, qui malgré le fait que ce soit aux Lakers ou cette année, me déçoit chaque année, je ne trouve pas qu'il a le niveau pour être titulaire en NBA. Et bien sûr, Taylor Hendricks, pris en place numéro 9, qui est une sorte de poste 4, potentiellement, poste 3, qui peut shooter de loin, qui a des bonnes qualités athlétiques, qui est aussi un profil défensif intéressant dans le futur, mais encore une fois sur les mêmes postes de John Collins et Lauri Markkanen. Donc à voir les choix qui sont faits, à voir ce qui se passe dans cet effectif. Si on décide de jouer très très grand, ça peut être aussi intéressant évidemment, hein, avec leur nouveau coach. Comment il s'appelle ? Je me souviens plus de son nom. C'est Will Hardy, excusez-moi. Will Hardy, qui a montré des choses exceptionnelles. Je pense que c'est un des très bons coachs des prochaines années. Donc, j'ai confiance. Mais cet effectif, malgré le fait qu'il progresse vers redevenir une grande équipe de l'Ouest, en tout cas une équipe qui gagne à l'Ouest, c'est beaucoup rajeuni. Donc, encore une fois, année de transition. Ou en tout cas, année où les jeunes vont devoir avoir de l'impact et du temps de jeu s'ils veulent refaire la même que l'année dernière et potentiellement plus en visant le play-in. Pour moi, ça n'arrivera pas dans mon bracket, on va appeler ça. Ils vont finir encore une fois 12e. Et puis à voir si dans ces jeunes qui arrivent, ou dans John Collins peut-être, qui retrouve des couleurs auprès d'un nouvel effectif, il y a un potentiel d'All-Star qui se cache là-dedans, ou de Defensive Player of the Year avec Walker Kessler. On verra bien ça. En tout cas, voilà, on arrive à la 11e place, et je pense qu'on va un petit peu accélérer le rythme, hein, parce que ça fait 20 minutes que je discute avec vous, et on n'a fait que 4 équipes, et il y en a 15. Donc pour la 11e place, on va enchaîner direct avec les Los Angeles Clippers. Voilà, la plus grosse take, on va dire, de cette vidéo, ce sera sûrement eux. Je ne sais pas, on va continuer après et vous me direz dans les commentaires. Mais les Los Angeles Clippers en 11, avec une perte de 6 places, c'est quand même assez culotté. Je pense que c'est l'année de trop, je pense que ça fait 2 ans que c'est l'année de trop, je pense que c'est au front office de changer les choses. On sait que dans un an, potentiellement, il y a l'ouverture de leur nouvelle salle à Los Angeles et qu'ils veulent des gros joueurs présents. Je pense néanmoins que Kawhi Leonard, qui va encore jouer 30 matchs, et Paul George, qui vieillit et qui, lui, se blesse aussi énormément, ça ne va pas suffire. Pour moi, même s'ils n'ont pas de tour de draft, de premier choix de draft, de premier tour de draft, jusqu'en 2027, il faut se séparer de ces joueurs tant qu'ils ont encore une valeur. Paul George a encore énormément de valeur. On le voyait à Portland, avec les rumeurs sur Portland, Kawhi, c'est pareil. Je suis sûr qu'il y a des effectifs qui voudraient récupérer ce genre de joueurs. Je sais pas si ça va arriver. Pour moi, de toute façon, avec les role players qui vieillissent aussi et qui, en tout cas, n'ont pas le niveau possible. On sait qu'il y a Maurice senior ou junior, je ne sais pas, qui a perdu ses minutes en tant que titulaire. Batum, qui lui aussi ressort d'une saison assez discrète, pardon, et qui a dit qu'il prenait sa retraite en 2024 après les JO. Donc potentiellement une des dernières ou la dernière saison de Batum en NBA. Donc oui, il y a quand même des problèmes. Des jeunes joueurs qui n'ont peut-être pas encore le niveau, comme Amir Kofi ou Diabaté, qui ne joueront très peu. Ivica Zubac, qui rentre dans son prime, entre guillemets. Nation Island. Donc ça ne suffira pas à porter cette équipe jusqu'au play-off. Évidemment, s'il y a 45 matchs et presque autant de victoires avec les cadres qui sont là, mon prono sera faux. Mais je pense que l'Ouest est beaucoup trop compétitif cette année, avec des équipes qui peuvent tous viser les playoffs, à part les 3 dernières ou même les 2 dernières. En fait, il y a peut-être que San Antonio et Portland qui ne visent pas le play-in. Je pense que les Clippers auront du mal à se sortir, s'ils ont les mêmes problèmes que l'année dernière, de ce marasme. On verra, parce que Westbrook, évidemment, j'ai énormément d'espoir sur lui, c'est très bien intégré. À voir si il y a des choix forts, comme signer des joueurs comme Harden ou potentiellement d'autres d'équipes de l'Est ou d'équipes qui vont se reconstruire pour rajouter encore du talent. Mais est-ce que du talent sur du talent, avec des joueurs blessés, des cadres blessés, des All-Stars blessés, est-ce que c'est vraiment utile? Je ne pense pas. Donc oui, les Clippers, pour moi, c'est fini. Il faut tourner la page. Cette franchise, on l'a vu, est bien gérée maintenant depuis un peu moins de 8 ans, on va dire. Et il faut savoir tourner la page et reconstruire, tout simplement. Ou en tout cas, jouer intelligemment le coup pour avoir des choix de tour de draft, des choses comme ça, des jeunes joueurs. Parce que tout simplement, si on attend 2027 avec cet effectif-là, vous donnerez énormément de choix aux équipes qui ont vos tours de draft. Je crois d'ailleurs que ce sont Oklahoma City. Enfin bref, je ne sais plus, je crois que c'est eux. Avec le trade de Paul George Shai. Enfin bref, je ne sais plus. Mais voilà. Donc oui, Los Angeles Clippers perdent de 6 places, 11e. Et pour moi, ça me paraît assez logique. Alors, on rentre dans les places du play-in. Pour moi, ça va se jouer, c'est très serré, très stacked. Comme je l'ai dit, l'Ouest, cette année, sera assez difficile. Et pour moi, avec une perte de une place, on aura les New Orleans Pelicans. Pourquoi ? Alors, je sais qu'il y a un effectif jeune qui commence à prendre de l'expérience, qui est de plus en plus performant, hein. Trey Murphy, José Alvarado, Herbert Jones. On a aussi l'arrivée d'un arrière comme Jordan Hawkins, Dyson Daniel qui monte des belles choses en défense. Tout ce genre de joueurs. À côté de ça, on a évidemment des Larry Nance qui sont plus expérimentés. Willy Hernan Gomez qui a beaucoup d'expérience, notamment FIBA. Je ne sais pas s'il va rester, mais bref. Il y a des joueurs plus vieux, comme aussi, évidemment, et il est en FIBA actuellement, ou alors il a été éliminé, je ne sais plus. Oui, bah oui, forcément. Jonas Valanciunas. Mais pour moi, le problème, c'est que Brandon Ingram ne peut pas porter cet effectif qui est encore peut-être un petit peu trop limité, trop haut dans cette conférence Ouest. S'ils étaient à l'Est, ça aurait été différent. Et je pense que c'est l'année où on perd un peu l'espoir Zion Williamson pour une saison à, allez, disons 60 matchs, pour être gentil. Donc non, je pense que cette année va ressembler malheureusement à toutes les autres, aux deux dernières en tout cas, que Zion Williamson est dans une franchise qui n'arrive pas à mettre en place des choses pour que son poids se stabilise. On sait qu'il y a eu beaucoup de problèmes avec Anthony Davis, ça a l'air d'être la même chose avec lui. C'est peut-être le moment de le faire partir avant que sa valeur ne chute drastiquement. Et dernier point qui me fait douter d'une saison plus haute que la 10e place, c'est tout simplement CJ McCollum en tant que meneur titulaire. C'est un grand joueur, CJ. Il a la malchance plutôt d'être entre deux postes, d'être trop petit pour l'un et potentiellement trop profil arrière pour le poste de meneur. Mais cette saison m'a fait énormément douter de lui. Son arrivée était très bonne. Il était très bon, que ce soit au scoring, à l'efficacité ou même au partage de la balle. Je ne pense qu'il sera jamais niveau All-Star comme il aurait dû l'être dans sa carrière à un moment donné. Derrière lui, il y a très peu de meneurs purs qui peuvent, même s'il y a beaucoup de porteurs de balles, hein, il y a très peu de meneurs qui peuvent faire en sorte que cet effectif aille très haut. Je sais que CJ McCollum va scorer, je sais qu'il va faire ses stats, je sais qu'il aura des matchs où il sera tout simplement exceptionnel à mi-distance comme on le connaît, mais j'ai quand même l'impression que ce n'était peut-être pas la bonne solution de le prendre en tant que meneur, et enfin, je sais pas. Ça me fait un peu de mal, hein, en tant que fan de Portland, de dire ça de CJ, mais sa saison est quand même assez décevante. Hein. Vous regardez ses pourcentages, même s'il est autour des 19-20 points, c'est très faiblard. Mais bon, il y a encore beaucoup d'espoir dans cet effectif. On a une franchise qui travaille très bien avec des jeunes qui sortent de nulle part et qui performent. On a encore des joueurs confirmés, hein, Brandon Ingram, malgré le fait que à cette Coupe du Monde FIBA, il ne soit pas au niveau attendu. Eh bien, on l'a vu à 30 points de moyenne en retour de blessure et très fort que ce soit en play-in. Donc oui, évidemment que j'ai beaucoup d'espoir encore pour cet effectif. J'espère qu'ils pourront me faire mentir. Mais tout simplement, ce n'est pas que je les trouve trop faibles. Enfin, si, un petit peu. Mais c'est que pour moi, les effectifs au-dessus se sont soit renforcés, soit sont tout simplement meilleurs. Donc voilà, pour moi une 10e place et se battre pour potentiellement aller en playoff, ça sera déjà bien pour cet effectif. Évidemment, c'est pas ce que je leur souhaite. Je sais qu'avec Zion Williamson à 90% de ses capacités, ils peuvent déjà viser le top 6 ou le top 5, même plus. On l'a vu en début d'année dernière. Mais j'ai quand même d'énormes doutes, pour être très poli. Enfin bref, on va passer à la place numéro 9, hein, directement. La place numéro 9 sera tenue par le Oklahoma City Thunder, qui gagne une place. Donc oui, on a inversé les deux, parce que tout simplement, même si je pense que la 9 et la 10 ne changent pas grand-chose, je pense quand même que Oklahoma s'est renforcé, qu'il y a une sorte de plafond de verre à dépasser, et ce sera peut-être pour l'année prochaine, mais pas cette année, parce que cet effectif est bien construit, il y a beaucoup de jeunes joueurs d'extérieur qui sont assez intéressants. Il manque néanmoins un secteur intérieur. On sait que Chet Holmgren va jouer cette année. Je pense qu'il va améliorer les choses à l'intérieur pour cet effectif s'il reste sur deux jambes, mais il ne faut pas trop en demander à un rookie, même s'il a un an d'expérience dans cette franchise, qu'il n'a pas joué évidemment, mais qu'il a pu s'entraîner auprès de professionnels en NBA, etc. Je pense quand même que ça serait trop lui demander de faire passer ce cap à cette équipe en année 1. Shai Gilgeous-Alexander, on l'a vu en FIBA, on l'a vu l'année dernière, est devenu une superstar, toujours un petit peu trop esselé à mon goût, mais on va le voir potentiellement cette année. Est-ce que Il y aura des joueurs à transférer, des jeunes à sacrifier, parce que je pense que cet effectif manque de vétérans. On a Davis Bertans, qui est arrivé, qui pour moi est un petit peu trop payé et qui ne changera pas grand-chose, que ce soit au secteur intérieur ou dans les vestiaires, hein, parce que ces jeunes ont l'air assez matures, ils n'ont pas potentiellement besoin de gens pour les cadrer. C'est plutôt des gens pour les cadrer sur le terrain plutôt que off-court. Qu'il me faudrait. On a Lugans Dort qui monte encore de très belles choses. J'espère une progression de Josh Giddey, évidemment. Chez Tom Green, il faut une première saison importante. On a un Victor Oladipo aussi. J'avais oublié totalement sa présence, qui pourra faire du bien dans les vestiaires, qui est un professionnel, qui a eu beaucoup de difficultés, mais voilà, un professionnel, ça c'est sûr. On a l'arrivée de joueurs d'importance, comme Kayson Wallace, qui pourra apporter de la défense sur les lignes extérieures encore plus. Évidemment, on attend une progression de Jalen Williams, qui a déjà 22 ans, mais qui en année 2 est forcément obligé de progresser. Kenrich Williams, ils s'appellent tous Williams, j'ai quand même un petit peu de mal, qui est un des vétérans de cet effectif, qui montre de très bonnes choses dans son rôle de facilitateur et tout ça, dans son rôle de défenseur en mission, enfin bref, vous m'avez compris. Jalen Williams aussi, qui montre des bonnes choses, des très bons écrans et tout ça, mais qui est encore très limité. Je pense qu'il se fera prendre sa place, c'est sûr, même par un joueur comme Chet Holmgren, à voir si les deux peuvent jouer ensemble. Isaiah Joe, hein, bon shooter, il en faut dans cet effectif, parce que effectivement c'est la plus grosse tâche, et je pense que l'arrivée de David Bertans est aussi pour ça, c'est pour apporter du shoot à cet effectif. On sait que Bertans est un bon shooter, mais il a eu des saisons totalement sans, donc à voir. Pour le côté un peu français, on va regarder l'évolution d'Ousmane Dieng. Il s'est blessé, il a montré des choses très mauvaises et des choses un peu pas mal, tout simplement. C'est un profil assez intéressant, hein. 6-10, c'est intéressant pour un ailier. À voir s'il peut développer encore plus son shoot, devenir un vrai two-way player. Il lui faudra de la place, cet effectif est assez fourni en jeunes. Mais voilà, je pense que c'est l'année où cet effectif redevient compétitif. Malheureusement, encore une fois, ils sont à l'ouest. Il faut faire des choix. Il y a des joueurs potentiellement au-dessus et des effectifs bien plus complets, hein, parce que là, je parle évidemment des plus connus, hein. Mais déjà, Isaiah Joe, Keyontae Johnson, Treman, qui a été très décevant en année 2, ou ce genre de joueurs comme Alexei Pokusevski, c'est peut-être la dernière chance, leur dernière année, surtout pour Alexei et Treman, avant de se faire potentiellement couper ou transférer, parce qu'ils déçoivent, tout simplement. Ils déçoivent. Donc, avoir beaucoup de jeunes qui sont encore vraiment à polir, des problèmes, que ce soit à l'intérieur ou au shoot. Une bonne défense extérieure, hein, vraiment, entre Lugans Dort, Shai et ce type de profil, c'est vraiment très fort. À voir ce que donne Kayson Wallace dans ce rôle aussi. Mais voilà. Donc pour moi, le Oklahoma City Thunder arrive 9e, et je trouve ça déjà positif qu'ils arrivent à aller en play-in 2 années de suite, alors que au début de l'année dernière, on les voyait vraiment dans les places 14, 15, etc. Drives past Johnson, scores in the left hand. Behind the back, dribbling to himself, and scores off the window. Brogdon dribbling between his legs, gonna try the right side, blows by Jones. Tatum, centering his option, starts his drive, spins back to his right. Très bien. Reprenons avec la place 8. Pour ceux qui entendent peut-être potentiellement un changement de voix ou un changement de son, tout simplement, j'ai repris l'audio de ce podcast quelques heures plus tard, petite pause, et du coup, potentiellement, vous entendez la pluie tomber, ce que ne vous entendiez pas, excusez-moi, lors du premier enregistrement et du début de l'enregistrement. Du coup, pour la place 8, continuons avec l'équipe que j'ai mis à cette place et qui va faire débat. C'est les Dallas Mavericks, tout simplement, qui gagnent 3 places. Un gain de 3 places, normalement, c'est positif, je pense que vous vous en doutez. Mais pour le coup, pour ces Dallas Mavericks qui possèdent quand même un backcourt composé de Kyrie Irving et Luka Doncic, ce serait, pour moi et je pense pour tous les observateurs, très décevant. On imagine déjà Luka top 3, top 5 dans la course au MVP l'année prochaine. Potentiellement, ce serait son année pour être MVP. Ça ne le sera effectivement pas s'il est 8e, ça c'est sûr. Mais je pense que j'ai totalement raison de douter de cet effectif, parce que même s'ils ont une construction qui est de plus en plus cohérente, il manque il manque de certitude. Sur les postes d'ailiers, on a des Josh Green, des Tim Hardaway qui sont des joueurs soit trop jeunes pour assumer ce qu'on demande à assumer à cet effectif, c'est-à-dire d'être contenders et de pouvoir jouer le titre avec Luka Doncic. On a le retour de Seth Curry qui jouait très peu en fin de saison avec les Nets. On a des jeunes joueurs dans le fond de courte, notamment avec Maxence Prosper. On a aussi un Dwight Powell qui continue à performer, mais qui a 32 ans et qui est quand même un profil très limité. Et aussi le pivot pris en 12, je crois, cette année, Derek Lively, second du nom, ou je sais pas, le 2, Derek Lively 2. Enfin bref, ce joueur-là qui était très intéressant à NCAA, mais qui pouvait pas jouer plus d'une vingtaine de minutes à cause de problèmes de faute, qui est encore très limité et qui l'était déjà en NCAA. Bref, c'est un projet à long terme, ce que ne recherche absolument pas Dallas, même s'ils sont renforcés à l'intérieur et c'est ce qu'on leur demandait et que c'est assez logique d'avoir fait ça. Il manque encore du monde. On a l'arrivée d'un Grant Williams, qui pourrait être un ajout de poids parce que c'est un two-way player de talent. Un two-way player qui était quand même septième homme dans une équipe contenders, à voir ce que ça donne, parce qu'on sait aussi que il était sur les postes de Jason Tatum, des postes de ailier fort. C'est donc assez compliqué de l'intégrer en tant que titulaire, mais à voir ce qu'il peut donner. On a aussi l'arrivée de Richon Holmes, qui est pour moi un peu de steak dans la peinture, mais qui était lui aussi complètement sorti de la rotation chez les Kings. Bref, on a des joueurs intéressants, mais des joueurs soit trop jeunes, ou alors il manque tout simplement de certitude à cet effectif. On a un Tim Hardaway Jr. qui, une saison sur deux, est totalement inexistant, pour ne pas dire une saison sur une. On a un Jaden Hardy qui joue sur les postes arrière, qui a besoin de temps de jeu et qui potentiellement peut faire une très bonne saison en sixième homme. Mais pour moi, il est encore trop brut, en fait. Il devrait faire des retours avec la G League. Bref, à voir ce que ça donne. Mais on a quand même un effectif qui s'est rajeuni, pour donner du point positif. On a un effectif un petit peu plus cohérent autour de deux joueurs offensifs comme le sont Luka Doncic et Kyrie Irving. On peut parler un petit peu d'eux, hein. J'ai aucun doute offensivement sur leur complémentarité. Kyrie Irving est un profil qui peut jouer off-ball et qui, tout simplement, même s'il a tous ses problèmes extra-sportifs, et c'est ça qui va questionner le plus, peut jouer autour d'un Luka à la même manière qu'il jouait autour d'un Harden il y a 2-3 saisons. Ça va poser aucun problème. Défensivement, ça va être plus compliqué. On verra quel rôle aura des joueurs comme Josh Green ou comme des joueurs comme potentiellement Grant Williams, qui doivent faire deux fois plus d'efforts pour compenser les lacunes défensives de ce backcourt, même si je pense que Luka Doncic a les ressources, en tout cas physiques, pour être un meilleur défenseur, et il doit le montrer cette année. Même s'il est moins fort en attaque, il sera suppléé plus efficacement par Kyrie Irving que n'importe qui dans sa carrière. Donc oui, il faut qu'il laisse un peu de place et qu'il occupe d'autres parts du terrain, notamment la défense. C'est l'année aussi charnière pour Jason Kidd, le coach, tout simplement parce qu'il y a 2 ans, il avait réussi à mettre en place une très bonne défense autour de Luka. Ils avaient réussi, contre toute attente, à aller en finale de conf et à faire très bonne figure. Après, évidemment, ils ont perdu Brunson, qui fut un départ, au final, très dommageable et même cataclysmique, quand on sait qu'il a maintenant le niveau All-Star, même s'il l'a pas été, il le sera sûrement l'année prochaine. En tout cas, il le sera un moment dans sa carrière, donc c'est quand même très dommageable. On remplace par un Kyrie Irving qui est effectivement un plus grand talent, mais qui pose beaucoup de doutes au niveau extra-sportif, au niveau de sa mentalité, son tempérament. Mais c'est surtout que l'année dernière, Jason Kidd on avait l'impression tout simplement qu'il avait perdu son vestiaire. Il ne proposait rien déjà, il avait toujours l'air d'être en retard sur chacune de ses décisions en cours de match, mais surtout il faisait des interventions sur nombre de ses joueurs assez particulières, disant qu'il n'était que coach finalement, ce qui est quand même assez fou, sachant que c'est peut-être le rôle le plus important derrière le franchise player. En tout cas, les deux marchent en consort, les deux marchent ensemble. Donc oui, à voir ce que cet effectif donnera. Je pense qu'ils feront les playoffs, je pense qu'ils ne passeront même pas le premier tour, mais j'espère qu'ils me font mentir, hein, parce que vraiment j'adore Luka Doncic, et en tout cas je pense que c'est un des plus grands talents des 10 prochaines années. Mais ça va s'annoncer compliqué, en tout cas cette année, à voir ce que ça donne, à voir le développement des jeunes aussi. C'est ça qui pose problème, c'est qu'on se base un petit peu trop sur la jeunesse et sur des profils un petit peu limités pour aller loin. Cet effectif est mieux construit, ça c'est sûr, mais c'est peut-être un peu trop limité pour la conférence Ouest en tout cas. Enfin bref, passons à la 7e équipe de ce classement, le top 7, avec une équipe qui baisse de une place, les Golden State Warriors. Alors, que dire sur ces Golden State Warriors ? Eh bien, tout simplement, pour commencer, vous avez entendu, j'ai soufflé, hein, ça me paraît assez fou quand on parle des Golden State Warriors, quand on parle des Warriors de cette dynastie de ces 10 dernières années, mais je pense que la transition se passe très mal entre la nouvelle et l'ancienne génération. Le choix de virer et de transférer Jordan Poole pour ramener Chris Paul est pour moi le premier clou sur ce tombeau, sur ce cercueil. Chris Paul qu'on souhaite faire jouer à côté de Stephen Curry, avec un Draymond Green qui commence à être vieillissant et un Klay Thompson qui sort d'une de ses pires saisons pour moi dans l'efficacité et dans ce qu'il a proposé sur le terrain, malgré ce qu'il dit lui-même. Stephen Curry, j'ai encore conscience qu'il sera All-NBA, qu'il sera peut-être l'un des meilleurs joueurs de la Ligue et qu'il sera peut-être dans la conversation MVP. On ne sait pas si les blessures le laissent tranquille, c'est tout à fait possible. Mais j'ai quand même du mal à y croire. On sait que Andrew Wiggins doit revenir à un bon niveau. Il lui est arrivé des choses pas cool ces dernières semaines et ces derniers mois, que ce soit personnellement, familièrement, enfin bref, vous m'avez compris. Même au niveau de la draft, Brandon Podziemski, je n'apprécie pas. Il y avait plus de talent à aller chercher. C'est un choix tout simplement de contender, hein, évidemment. Mais potentiellement, s'il y avait des jeunes à développer, on aurait pu aller chercher d'autres personnes plus haut. Je trouve ça assez dommageable. De la même manière, je pense que le temps de jeu de certains jeunes va poser question. Moses Moody a besoin de temps de jeu pour se développer, mais surtout Jonathan Kuminga. On se souvient qu'il y a quelques années, on parlait de Wiseman, Kuminga, Jordan Poole et Moses Moody comme le futur des Warriors, et que finalement il n'y aura même pas d'étape de reconstruction parce qu'ils draftent tellement bien entre guillemets pour ne pas avoir à reconstruire. Au final, deux de ces futurs cadres, de ces jeunes, sont partis. Les deux sont l'un est un flop qui a été échangé contre des seconds tours de draft à Détroit et qui fait ses petites stats à Détroit, hein, qui montre des bonnes choses, mais qui n'aura jamais le profil en tout cas qu'on lui attendait en sortie de draft, hein. On se souvient quand même que James Wiseman a été pick en 3 par les Warriors. Jonathan Kuminga qui montre aussi de très bonnes choses et qui mérite peut-être plus de temps de jeu, qui est peut-être le plus gros talent derrière Jordan Poole, mais qui se frustre, et il y a de plus en plus de rumeurs d'un transfert pour lui aussi. Et évidemment, Moses Moody, qui a de courtes minutes, mais de bonnes minutes, très bon shooter et tout ça, un 3&D à en devenir, tout simplement. Donc oui, du talent dans un effectif, de toute façon, je les ai mis en porte de play-in, c'est-à-dire en porte de play-off plutôt. Donc je pense qu'ils font les play-offs, je pense même qu'ils peuvent créer un upset avec le deuxième, c'est tout à fait possible avec le talent qu'il y a dans cet effectif, mais je pense que cet effectif est trop sujet aux blessures, qu'il y a eu le départ du GM cette année et que ça va changer beaucoup de choses pour la suite, parce que tout simplement il n'y a plus ce monstre à trois têtes entre Stephen Curry, Steve Kerr et évidemment le GM. Je pense aussi que Joe Lacob, qui est le président de ces Warriors, en aura peut-être marre à un moment donné de payer beaucoup trop cher ces joueurs, alors même que l'année dernière, ils n'ont fait qu'un second tour de playoff, ce qui est déjà bien, mais pas assez, pas suffisant pour ces Warriors. Pareil, ils récupèrent le contrat de Chris Paul, qui est un gros contrat aussi, même s'ils dégagent celui de Jordan Poole. Pour moi, le contrat de Chris Paul peut être plus toxique à court terme. Enfin bref, ils ont rajouté des joueurs comme Dario Saric. Il y a du talent dans cet effectif. Ils ont même pris Corey Joseph. On a Kevon Looney encore, hein, qui a fait d'énormes playoffs cette année. Gary Payton 2, qui sera peut-être moins sujet aux blessures et qui fera un an plein du côté de Golden State. Bref, on a encore des signes d'espoir. On sait aussi que c'est une grande franchise, une des plus grosses franchises de la NBA. Ils ont possibilité de faire des trades. Le problème étant, est-ce que au niveau de l'image, c'est vraiment possible de transférer des joueurs comme Klay Thompson ou Draymond Green, ou même potentiellement Chris Paul, on ne sait pas, pour faire la place à un nouveau talent, sachant que on le sait tous, que ce soit Draymond Green ou Klay Thompson, ils veulent finir leur carrière ici, ou en tout cas, ils font tout pour devenir des légendes à long terme, et ils le sont déjà, hein, c'est fou de dire ça, mais ils le sont déjà. des légendes des Warriors et ils veulent finir leur carrière ici. Donc, ça serait un énorme risque de tout bouleverser. Je pense que cette franchise est très patiente, mais en même temps, cette franchise sera peut-être trop patiente avec certains de ses cadres et tout simplement, on aura une phase de reconstruction qui viendra dans quelques années. Ce que on rejetait totalement il y a même un ou deux ans, à voir ce que Jonathan Kuminga donnera cette saison, mais ça va être quand même très compliqué pour les voir comme de réels contenders cette saison, même si je pense qu'ils feront les playoffs. Enfin bref, on va passer au top 6. Et pour la sixième place, tout simplement, j'ai décidé de mettre les Sacramento Kings. Alors c'est une baisse de 3 places, effectivement. Et pourtant, je pense qu'ils seront et ils proposeront le même jeu attractif et offensif que l'année dernière. Pourquoi baissent-ils de 3 places ? Évidemment, il y a la concurrence. Je pense qu'ils seront plus sujets aux blessures. Enfin, c'est horrible de dire ça, mais l'année dernière, ils n'en ont eu aucune. C'est une des équipes qui a été le plus épargnée par les blessures. Je pense aussi qu'autour d'eux, ça s'est beaucoup beaucoup renforcé, que si certains effectifs au-dessus et même en dessous n'ont pas de blessures, ils peuvent totalement concurrencer ces Kings. À côté de ça, même si les jeunes prennent de l'expérience, notamment Keegan Murray, on verra ce qu'il donne en saison 2, mais j'ai beaucoup d'attentes par rapport à lui, et que bien sûr, il y aura beaucoup plus d'automatisme entre De'Aaron Fox, Domantas Sabonis, Keegan, même des Malik Monk ou des Harrison Barnes. Je pense quand même qu'il y a un défaut défensif pour cette franchise, que potentiellement, s'ils ont moins de chance au global, et même avec l'ajout de joueurs comme Nerlens Noel, ou alors le développement de Davion Mitchell, qui sont des profils défensifs plutôt excellents, même complètement excellents dans leur rôle défensif, même si on sait que Nerlens Noel en attaque, c'est tout simplement zéro, cata, enfin bref, vous m'avez compris. Je pense tout simplement que cet effectif sera juste débordé par la concurrence, et je pense aussi que cet effectif sera beaucoup plus attendu. C'était une darling de l'Ouest l'année dernière. C'était une franchise vraiment redevenue sexy avec leur histoire de light the bean. Enfin bref, je pense que cette année, on attend les Kings. C'est la première fois qu'on dit ça depuis les 17 ans. Et je pense vraiment que ça va leur porter préjudice. Évidemment, je leur enlève peut-être... J'ai pas fait le nombre de victoires et de défaites. Je leur enlève peut-être 3 ou 4 victoires maximum. On sait que dans ces places-là, de 6 à 3, à l'Ouest, c'est totalement serré. Donc oui, je pense que ça sera une bonne saison pour les Kings. Ils peuvent aussi potentiellement faire l'upset. Ça va être compliqué. Mais cet effectif a plus d'expérience. Mais j'ai quand même des doutes. Voilà, j'ai des doutes parce que je pense qu'ils n'ont toujours pas le statut de contender. On sait que ça va vite en NBA. S'ils ne chopent pas le statut de contender cette année ou l'année prochaine, il faudra déjà penser à la suite. Et c'est horrible de dire ça pour une franchise qui joue aussi bien pour une attaque aussi collective et aussi huilée. Mais voilà, à voir. J'aime aussi l'ajout de Alexander Vezenkov, qui est un des meilleurs joueurs d'Euroleague l'année dernière et qui a signé aux Kings. On verra quel rôle il aura en sortie de banc sûrement et qu'est-ce qu'il pourra faire, mais ça peut être très intéressant à NBA, à voir comment il s'adapte. Mais voilà, top 6 pour moi, c'est plutôt clair et c'est même plutôt une place cohérente, stable. Ça ne me choque pas et ça ne devrait pas vous choquer, je pense. Continuons avec la place numéro 5 et là... Gros avis. De toute façon, là, vous commencez à comprendre les équipes qui manquent et les équipes qui sont au-dessus. En place numéro 5, j'ai donc décidé de mettre Minnesota. Évidemment, là, ça doit faire rugir, ça doit poser beaucoup de problèmes à beaucoup de monde parce qu'ils ont très mal joué l'année dernière. Il y avait beaucoup d'histoires. Heureusement, il y avait Anthony Edwards dans cet effectif parce que sinon ça aurait été beaucoup plus compliqué. Là, je leur fais gagner 3 places quand même. Hein. Ils sortent du play-in et ils rentrent même dans les places très positives de play-off, même s'ils n'ont pas l'avantage du terrain. Pourquoi ? Tout simplement parce que déjà en play-off, j'ai redécouvert une âme à cet effectif. Rudy Gobert était positif pour cet effectif, même si on sait que Kat était limité, ou en tout cas, il n'était toujours pas au niveau dont on l'attend depuis quelques années. Je pense que là, il s'est reconcentré. Son parcours FIBA en World Cup l'a permis potentiellement de mûrir et de forger une saison incroyable. De toute façon, Anthony Edwards l'a dit, il veut que Kat soit à ce niveau de MVP, en tout cas, qu'il soit à un niveau de All-Star, All-NBA, qu'il fasse taire les critiques, tout simplement. Je pense que le faire à côté de Rudy Gobert sera une épreuve, et à voir comment ça évolue, parce qu'ils n'ont pas joué des centaines de matchs ensemble encore, même s'ils sont au moins une vingtaine ou une trentaine. Mais même à part ça, même en occultant ce front court, je trouve que le backcourt Mike Conley et Anthony Edwards fonctionnent vraiment bien. D'ailleurs, Mike Conley fonctionne vraiment bien avec l'ensemble de cet effectif, que ce soit Rudy Gobert ou Kat en playoff, c'était très intéressant. Des facilitateurs comme Kyle Anderson, c'est très intéressant à voir dans les vestiaires ce que ça donne avec Rudy Gobert ou d'autres. On sait qu'il y a de forts caractères et des caractères très différents. On voit que Edwards veut prendre le lead. Il a de plus en plus d'interviews où il est beaucoup plus réfléchi, où il parle de cet effectif et qui veut participer à faire grandir cet effectif. Et moi, j'ai décidé aujourd'hui de lui faire confiance, tout simplement parce qu'il n'a que 22 ans, qu'il est déjà, et il était pendant la World Cup, le leader de cette équipe des USA, qu'il est qui sort d'une saison tout simplement de All-Star à 24 points de moyenne à seulement 22 ans, hein, pour vous dire, il n'a à peine, même pas d'ailleurs, un an de plus que moi. C'est quand même impressionnant. J'ai l'impression que ça fait 4-5 ans qu'il est déjà au niveau All-Star, ou en tout cas qu'il est dans la ligue. À côté de ça, on a un Jaden McDaniel qui a 23 ans, qui est sur les mêmes standards d'âge en tout cas, et qui a un profil défensif et d'ailier très fort. Je l'ai découvert cette année, redécouvert plutôt, parce que j'ai eu l'impression qu'il passait un vrai cap. On a beaucoup de potentiel dans cet effectif. On a aussi Naz Reid qui a découvert un rôle en sortie de banc. D'ailleurs, sur certaines séquences et même sur les séquences en fin de match, en dernier quart-temps, il prend la place de Rudy Gobert, ce qui doit être dur à encaisser pour un joueur qui a été All-Star et Deep Boy comme Rudy Gobert. Mais Naz Reid, c'est très intéressant ce qu'il propose. Et je pense que cet effectif, avec un an de plus, un futur All-NBA comme Anthony Edwards et un profil d'arrière tout simplement du futur, entouré de défenseurs d'élite, il y en a plusieurs dans cet effectif, de joueurs capables de space, d'une équipe qui s'est aussi rajeunie, malgré que Mike Conley ait 36 ans, cette équipe n'est en début de course, j'ai envie de vous dire. On a aussi la présence de Nickel Alexander Walker, excusez-moi, qui a fait un très bon taf lui aussi sur Jamal Murray en playoff, qui là sort de la Team Canada pendant la FIBA, et tout simplement il a été très fort. Peut-être que lui aussi cette année passera un step, même s'il a déjà 25 ans, c'est tout à fait possible, et j'ai une entière confiance en cet effectif. L'année dernière déjà on les mettait dans le top 4, on a été beaucoup déçus. Je pense que on demande trop vite trop de choses à ces équipes qui se construisent en intersaison, mais là c'est la deuxième année et il faut y aller. Je pense que Minnesota est capable d'aller gratter une cinquième place, peut-être plus haut même. Moi j'ai plus tendance à dire qu'il serait quatrième ou cinquième, plutôt qu'il soit encore une fois dans les places du play-in. Non, je pense vraiment que c'est l'année d'Anthony Edwards. Je pense qu'il va se révéler au monde, parce que les initiés et même ceux qui regardent la NBA de loin le connaissent, mais Anthony Edwards en 2023-2024, ça va être tout simplement un monstre absolu, je le pense. Enfin bref, voilà. On peut enchaîner, je pense, avec la quatrième place. Et pour cette quatrième place, tout simplement, j'ai décidé d'y inscrire les Memphis Grizzlies. Encore une fois, est-ce que ça va faire débat? Je ne me rends pas bien compte, hein, évidemment, je suis tout seul. Je leur ai fait perdre déjà deux places, parce que encore une fois, je pense que c'est au niveau de la concurrence que ça se passe, au niveau des équipes et des contenders de cette année. Mais pour moi, ils ne seront pas forcément moins forts que l'année dernière. À voir ce que Ja Morant donne au retour de sa suspension de 25 matchs. Est-ce qu'il est au fond du gouffre mentalement, ou est-ce qu'il se reprend et qu'il a fait un tri dans les gens qui l'entourent et qu'il a taffé sur son jeu. Bref, on verra ce que ça donne. Moi, j'ai entièrement confiance sur un joueur aussi jeune, sur le fait qu'il puisse évoluer dans le bon sens. À côté de ça, on a un effectif qui s'est tout simplement renforcé. On a un Marcus Smart qui pourra prendre le lead de cet effectif en l'absence de Ja Morant. On sait que cet effectif est totalement capable de gagner des matchs sans Ja. Ils l'ont fait les deux dernières années et ils l'ont déjà prouvé. En espérant que Desmond Baines et Jaren Jackson Jr. ne se blessent pas, parce qu'on sait qu'ils en sont capables. Les deux se sont blessés pendant une vingtaine de matchs l'année dernière. Mais si on a un Marcus Smart associé à un Desmond Baines avec Jaren Jackson Jr. et tous les autres profils, hein, évidemment, Jake LaRavia qui a montré d'excellentes choses lui aussi en FIBA, Xavier Tillman qui reviendra, Zaire Williams qui j'espère passera un cap parce que c'était un profil que j'adorais en sortie de draft. On a pour les vestiaires aussi un Derrick Rose et potentiellement pour quelques minutes qui peut être très intéressant. Beaucoup de joueurs, un excellent coach en Taylor Jenkins. Oh, excusez-moi, j'ai dit Jake LaRavia en FIBA, mais je parlais de Aldama. Bref, il y a beaucoup de A dans les deux, donc pardonnez-moi. Mais bref, non, il y a énormément de choses à attendre de cet effectif, je pense. Et tout simplement, ils ont l'expérience maintenant, même si c'est une équipe encore très jeune, ils ont tout simplement l'expérience d'aller loin et d'aller loin en régulière et de ne pas se sentir menacé par les équipes en dessous, tout simplement parce que Desmond Baines peut être potentiellement un All-Star l'année prochaine, que Jaren Jackson Jr. doit rester sur les mêmes standards et au vu de sa compétition où il a été un petit peu, pour ne pas dire extrêmement faiblard face à d'autres intérieurs intérieur tout court en fait de cette compétition, j'espère qu'il aura un petit peu la rage au ventre et l'envie de prouver qu'il mérite ce titre de meilleur défenseur de la NBA. Bref, je pense réellement qu'il y a de grandes choses encore à forger et que même s'il y a beaucoup d'extrasportifs en ce moment côté Memphis, ça ne les empêchera pas de rester une franchise qui performe et qui travaille énormément bien. Donc oui, je mettrai ma petite piécette sur ce Memphis avec l'avantage du terrain et tout simplement avec un retour de Ja Morant niveau All-Star en 27, 6, 7, un truc comme ça. Même plus potentiellement, on sait pas, on sait que les attaquants prennent de plus en plus le lead depuis 2 ans en NBA et que dépasser les 30 mois, les 30 points, excusez-moi, je bégaye, mais dépasser les 30 points n'est pas si rare que ça, donc pourquoi pas l'imaginer en 29-6-7 ou 29-6-8, ce serait une saison énorme pour ce joueur-là, qui montrerait un petit peu à la planète basket que bah, il est revenu la tête pleine de basket et surtout vide de gun. Enfin bref, vous m'avez compris, on va passer à la suite avec le top 3. Et ce top 3 commence avec la plus grosse montée au classement cette saison pour moi, ce sera les Los Angeles Lakers. Donc oui, chaque année évidemment on les voit comme contenders hein, au vu des noms qu'ils ont dans leur effectif, mais je pense que ce cap mental a été passé l'année dernière. On savait que cet effectif n'était pas du tout beau à jouer, que ce soit offensivement ou défensivement, il y avait beaucoup de problèmes de cohérence, de cohésion entre les cadres, entre les joueurs, et tout simplement un manque de profondeur assez abyssal, et de shoot, et de défense, et de beaucoup de choses en fait. Mais tous ces problèmes ont été réglés. On a arrêté d'accumuler du talent sur du talent sans qu'il n'y ait de cohérence. Et même si les cadres comme LeBron James ou Anthony Davis de cet effectif sont particulièrement sujets aux blessures, je pense que même si l'un des deux joue, cet effectif peut tout simplement gagner. Parce que si Anthony Davis n'est pas là, on peut suppléer son absence avec un Rui Hachimura ou ce type de joueur, Jared Vanderbilt, qui peut assumer en défense ce rôle sur plusieurs matchs. On a aussi un Austin Reeves qui offensivement peut faire le taf et suppléer un joueur comme LeBron James. À voir, on a aussi Christian Wood qui sort de plusieurs saisons assez compliquées où on sait qu'il a un talent offensif énorme mais qui en défense, bah, c'est tout simplement un trou noir. À voir sur certaines séquences s'il peut assumer ce rôle et potentiellement être un sixième homme un peu de luxe. On a D'Angelo Russell qui a beaucoup de choses à prouver et à reprouver aussi. On a évidemment l'arrivée de Gabe Vincent qui était un excellent meneur pour le Miami Heat et une grosse perte à mon goût pour ce Miami Heat en vue d'aller obtenir un titre, pardon, mais qui sur le banc ou même en tant que titulaire pourrait faire énormément de bien, notamment en playoff. À voir comment ça se traduit parce qu'il n'y a pas Spoelstra dans cet effectif, mais je pense qu'avec des joueurs intelligents comme LeBron James, Anthony Davis ou le coaching staff peuvent le mettre dans les meilleures dispositions. Je pense qu'avec des joueurs comme Taurean Prince, mais aussi Max Christie, qui était très très fort à 3 points et qui est encore très jeune, hein, évidemment, il ne faut pas énormément compter sur lui, mais qui peuvent assumer des rôles en sortie de banc et alimenter cette profondeur qui manquait il y a à peine 18 mois, même 12 mois aux Lakers. On a aussi un Austin Reeves qui, malgré la hype, devient ce type de joueur qui fait gagner des matchs. Hein. Peut-être pas la star que certains voudraient qu'il soit ou que certains pensent qu'il est, mais un joueur et une quatrième option d'une équipe qui peut tout simplement te faire gagner des money time de manière récurrente. On a aussi Cam Reddish qui doit être relancé, même si j'ai très peu de J'ai très peu d'espoir sur lui. Jackson Hayes, c'est la même chose. C'est un profil athlétique et un profil de joueur au niveau physique qui est très intéressant à placer, notamment à côté d'Anthony Davis. Ça peut être très cool. Mais à part ça, au niveau de qualité basket, je suis un peu plus sur ma faim. À voir les rotations qui sont mises en place. J'ai toute confiance déjà sur le côté défensif de cet effectif. Gabe Vincent sort de l'école Spoelstra, pardon. Ça peut être très, très vite un bon défenseur aux Lakers. Austin Reeves qui fait les efforts. LeBron James qui peut faire les efforts malgré le fait qu'il vieillisse. Mais cette défense se base essentiellement sur la paire Anthony Davis et Vanderbilt. J'ai entièrement confiance sur le fait que cette année, il sera potentiellement dans les meilleures défenses de NBA. Et surtout que, je l'espère, hein, parce qu'il manque quand même ça à son palmarès, que Anthony Davis sera dans la course au DPOY et sera sérieusement considéré dans celle-ci. Parce qu'il mérite, tout simplement, il mérite. Malgré ses problèmes de blessure, il mérite beaucoup mieux qu'être une seconde option, même si c'est derrière LeBron James. Donc oui, à voir. Et je mets aussi une petite piécette. Regardez-le, Jalen Hutchifino, qui est aussi un de mes chouchous de la draft, qui sera sûrement meneur, troisième meneur de cet effectif. Un pro du pick and roll, un profil de 2 mètres, donc plutôt grand, très fort shooter à mi-distance, beaucoup moins à 3 points, mais je suis sûr qu'il peut développer ça. À voir comment il se développe, j'espère que les Lakers en feront un bon joueur. Hein. On sait que récemment, ils arrivent quand même à sortir des petites pépites non draftées ou même en fin de premier tour, début de deuxième. Donc à voir ce que ça donne avec Jalen Hutchifino. Mais j'ai toute confiance en leur capacité à devenir et à continuer à être contenders et tout simplement être troisième de cette conférence Ouest. Et d'ailleurs, ils affronteraient au premier tour les Sacramento Kings pour une confrontation qui serait pour moi légendaire, enfin en tout cas le petit pousset, la ville un petit peu calme de Californie contre les paillettes de cette même Californie, ça pourrait être fou je pense. En plus ces deux franchises se détestent et à raison, surtout au niveau des Kings, donc oui, ça peut être très intéressant et j'espère que ça arrivera au premier, deuxième ou même en finale de conf, hein, soyons fous. Mais bref, voilà, continuons avec le top 2. Et de toute façon, vous l'avez deviné, il ne reste que 2 franchises. Et parmi ces 2 franchises, nous avons en top 2 les Phoenix Suns qui gagnent 2 places et qui arrivent top 2. Alors, est-ce que je crois en ces Phoenix Suns, new look, talent NBA certain, enfin un conglomérat, je ne sais même pas comment le dire, de stars qui se rajoutent sur du rajout encore, des millions dépensés dans 3 joueurs, 4 en comptant DeAndre Ayton. Bref, un effectif de superstars. On sait qu'on en a marre depuis quelques années, hein, que ça ne mène à nulle part. On va dire que c'est peut-être la dernière chance, The Last Dance pour cet effectif. Mais on parle uniquement de saison régulière. Je ne crois pas forcément en cet effectif en play-off. Je pense qu'il est limité, même s'ils ont réussi à construire un bout de banc assez intéressant, hein, quand même, avec Yuta Watanabe notamment, Bol Bol, on va voir si ce n'est pas juste de la hype, Eric Gordon, TJ Warren, il y a des joueurs sur ce banc, Josh Okogie bien sûr, même si je ne sais pas s'il sera tout le temps en sortie de banc, il y a de quoi faire un effectif à 8-9 joueurs assez complet. Mais cet effectif ne se connaît pas, cet effectif n'a pas d'âme, même si Devin Booker et DeAndre Ayton jouent ensemble depuis certaines années maintenant. Bradley Beal devra accepter un rôle de troisième option, voire de quatrième. Hein, dans les faits, on ne sait pas ce que donnera DeAndre Ayton. On sait que leur nouveau coach est d'un profil très défensif et qui veut redonner un peu de light, un peu de lumière à DeAndre Ayton et qui le trouve important dans le projet. Donc, à voir ce que ça donne. Ce coach qui a quand même été champion en 2020 avec... Enfin, Frank Vogel, pour ceux qui ne le savent pas, qui a été champion en 2020 se basant sur une défense énorme aux Lakers. On va voir ce que ça donne avec les profils qu'il a. On sait que Kevin Durant, depuis quelques années, est un bon défenseur. Devin Booker aussi. Bradley Beal est tout simplement average. Hein. Il n'est ni bon ni mauvais, à mon sens. Et DeAndre Ayton, c'est selon les efforts. Donc, pour moi, la chose la plus importante à créer dans ce groupe est une identité de jeu, est une âme d'équipe, tout simplement. Mais est-ce que ça sert vraiment en saison régulière ? Je ne suis pas sûr. Je pense que le talent, quand on voit ce que a donné Kevin Durant et Devin Booker à eux deux en playoff, ce talent peut faire gagner tout simplement des matchs contre d'autres contenders. Sur un match, ils peuvent tout simplement sortir et de nombreuses fois, hein, évidemment, même la plupart des fois, avec la win. On verra en playoff ce que ça donne. Je me pose beaucoup de questions, notamment sur Bradley Beal et DeAndre Ayton. J'ai une confiance aveugle en... au début, en tout cas, du banc de cet effectif, notamment Yuta Watanabe, TJ Warren offensivement, qui reste un très bon joueur, et aussi Eric Gordon. On sait aussi, surtout moi d'ailleurs, parce que je suis éperdument les Portland Trail Blazers, que Drew Eubanks, sur quelques séquences, peut être un bon joueur, même s'il a les mains qui glissent. Bref, vous m'avez compris. On a aussi Josh Okogie. Je sais qu'il va faire une bonne saison, parce qu'en fait, ça doit être ce connecteur entre toutes ces stars qui doivent penser à mettre leur ego de côté, à voir ce que pense Bradley Beal de tout ça. Je me souviens quand même qu'il avait sorti de lui-même, hein, il l'avait dit dans une interview, qu'il pensait qu'il était échangé contre Devin Booker à Washington. Par conséquent, il pensait qu'il avait le niveau, ou en tout cas la valeur de Devin Booker. Je pense qu'il ne se rend pas compte du joueur qu'il est depuis 2 ans et que personne à part lui pense qu'il a cette valeur-là sur le marché. Donc à voir s'il arrive à limiter son nombre de tirs par match, à faire les efforts pour créer. On sait que ça va être potentiellement lui, le véritable meneur de cet effectif. Donc voir s'il est capable de créer, passer la balle et tout simplement de créer du système de jeu. Parce que moi j'ai des doutes, tout simplement. Donc oui, rien de positif, hein. On a l'impression qu'on parle d'une équipe 12e de conférence. Mais disons que quand on a un effectif avec Kevin Durant et Devin Booker, c'est dur de ne pas le mettre avec l'avantage du terrain. Mais je pense quand même que cet effectif n'ira pas au bout, qu'elle est contender, hein, c'est un fait, au vu des noms qu'elle possède, et même du coach qui a une certaine renommée. Je pense néanmoins que cet effectif sera un effectif de saison régulière, comme l'étaient beaucoup d'effectifs avant lui, notamment beaucoup d'effectifs de Kevin Durant. Non, on va pas cracher dessus parce que c'est factuellement faux. Il n'a pas eu de chance, mais voilà, c'est quand même assez compliqué pour lui ces dernières années, et on va voir ce que ça donne. Mais là, j'ai les noms sous les yeux, j'ai le coaching staff, j'ai aussi les montants sous les yeux, et je pense que c'est cher payé, ça c'est sûr, c'est une certitude, mais surtout que ça ne fonctionnera pas. Voilà, je l'ai dit, on peut passer à autre chose. Ça se trouve, dans 9 mois, 10 mois, eh bien, ça me donnera totalement tort. Et en fait, ils gagneront contre je ne sais qui, les Bucks, en finale 4-0, avec un Kevin Durant qui redevient MVP des finales, ou Devin Booker, potentiellement, on ne sait pas. Mais j'ai quand même certains doutes, hein, je ne parierai pas pour. Bref, on a fini sur le plus intéressant, j'ai envie de vous dire, parce qu'en première place, j'ai décidé de remettre les Denver Nuggets. Et pour le coup, effectivement, on tourne un petit peu en rond. C'est-à-dire qu'on a une force collective qui va être présente dès le premier match l'année prochaine. Il y a une facilité incroyable de réitération de l'exploit de l'année dernière, parce que cette équipe n'a pratiquement pas bougé, hein. On a perdu quelques joueurs de complément, évidemment, mais je pense qu'ils sont remplaçables à mort. Voilà. Je pense que Nikola Jokic, associé à un Jamal Murray qui sera potentiellement encore plus en jambes malgré sa petite blessure avant le Canada et le fait qu'il n'a pas pu jouer la Coupe du Monde FIBA, je pense que ça va être une mismatch permanente pour les adversaires, ça va être compliqué pour eux. Je pense que Michael Porter Jr. aussi peut encore prendre en niveau. Il a été beaucoup trop relégué à un rôle de spot-up shooter, ou en tout cas pas assez de création à mon goût, même si je parle évidemment de création pour lui, parce que pour les autres, ça ne sera jamais un bon créateur collectif. On a aussi Aaron Gordon, s'il refait la même saison que l'année dernière, ça peut être incroyable. Kentavious Caldwell-Pope, tout simplement. Reggie Jackson, s'il revient un petit peu sur ses jambes. Kanchar, Njagi, Justin Holiday, enfin bref, vous connaissez ces noms. On verra l'arrivée de Julian Strouter, qui est un jeune de la draft, et de ce type de joueur et ce qu'ils peuvent faire. Mais je pense qu'on va s'attarder grandement sur le cas Nikola Jokic. Je pense tout simplement que c'est grâce à lui. On a vu que cet effectif pouvait gagner sans lui, ou en tout cas quand il était dans un mauvais jour, Enfin, non, un mauvais jour, j'abuse. Il n'a jamais été pendant ses playoffs. Mais quand il rentre sur le banc, quand il n'est pas là, ou quand il a un coup de moins bien, cet effectif peut prendre le relais. On en doutait pendant la saison régulière avant les playoffs. Maintenant, il n'y a plus aucun doute. Nikola Jokic sera encore dans la course au MVP et potentiellement MVP. Jamal Murray peut potentiellement choper sa première étoile d'All-Star. Et autour de ça, on a un effectif qui se connaît par cœur de shooter. Une attaque millimétrée. Je pense que c'est derrière les Kings la deuxième meilleure attaque de la Ligue. Et ce sera la deuxième meilleure attaque de la Ligue. Ils vont gagner assez pour aller en playoff. Ça, c'est une certitude. Ils pourront même reposer Nikola Jokic parce que c'est un, encore une fois, j'insiste, c'est un rouage qui va fonctionner pendant la régulière parce que c'est ce genre d'équipe qui limite s'ennuie en régulière. Évidemment, petit SO à Trae Young qui s'ennuie en régulière alors qu'il ne gagne pas de match. Mais bref, non, je pense que cet effectif sera chiant à regarder parce que tout simplement trop fort, trop fort. Et ceux qui n'aiment pas les petites franchises comme Denver ou les joueurs comme Nikola Jokic et son style de jeu, d'ailleurs ce que je ne comprends pas, vont encore beaucoup regretter cette saison. Et oui, je prends cette saison dans sa globalité parce qu'en playoff, il faudra avoir peur de cet effectif aussi et grandement peur même. Enfin bref, voilà, on a terminé. Donc petit résumé rapide, Denver premier, Phoenix en deuxième. Los Angeles derrière, Memphis Grizzlies, Minnesota, Sacramento Kings. Pour la 7e place et les places du play-in, on a Golden State, après Dallas, Oklahoma, New Orleans, Pelicans. La 11e place, donc la place, la pire place possible, c'est pour les Clippers. De toute façon, ils n'auront pas de choix de draft. Le Utah Jazz qui garde la même 12e place en rajeunissant. Houston Rockets qui passe un petit cap cette année en étant 13e. Et évidemment, les Cancres, San Antonio et les Portland Trail Blazers. Enfin bref, je pense que c'est plutôt cohérent. J'ai pas fait beaucoup de folies. Peut-être que Minnesota en 5 et Los Angeles en 11 sont des folies. Mais moi, je trouve que par exemple pour Golden State ou Dallas, c'est tout à fait logique de les voir en 7e et 8e place. Je n'appellerais même pas ça une folie. Je pense que la progression de Minnesota est assez logique, que la descente, la légère descente des Kings l'est aussi au vu de la concurrence. Et je pense surtout que, encore une fois, depuis 20 ans maintenant, cette Ouest-là est une guerre de tranchées et que chaque match sera compliqué. Parce qu'en fait, toutes les équipes, à part potentiellement San Antonio, Portland et Houston, mais on ne sait pas, peut-être qu'ils viseront le play-in, toutes ces équipes, il y a 12 équipes pour 8 places, ou 13 équipes pour 8 places de play-off. Et ça va être complètement fou. Il y a peut-être moins de contenders dans ce côté ouest de la NBA. On a encore Denver, Phoenix potentiellement, Los Angeles potentiellement. Et voilà, pour moi, les vrais contenders, ce sont eux. À voir pour Golden State, même si je les ai placés 7e, ils sont toujours un petit peu contenders. Mais il y a un vrai contender pour le titre, et des quasi vrais derrière deux ou trois, mais côté Est, il y a peut-être plus d'équipes qui visent le titre et qui sont capables d'aller chercher un titre, quelques-unes de plus, mais derrière ces équipes-là, la profondeur et le talent est beaucoup moins bien réparti, et tout simplement, cet Est-là n'a pas le talent de cette conférence ouest, en tout cas sur les 12 premières places. À voir sur les 3 premières, s'il y a plus de talent, s'il y a plus de contenders, c'est fortement possible. Mais voilà, l'ouest sera encore une guerre de tranchées, sera encore extrêmement intéressant. Je sens qu'il va encore y avoir des stories, des matchs de fou, de l'extra sportif, bref, tout ce qu'on aime en NBA finalement, et aussi des matchs offensivement incroyables. Cette vidéo, podcast pour ceux qui m'écoutent, et donc la première d'une série de deux. La prochaine sera à l'Est, où on va parler des effectifs de chaque franchise. Encore une fois, un top 15 en partant du bas, vous l'aurez compris, et on verra ça peut-être dans une semaine, un peu moins, 5 jours, le temps que je le sorte, sauf si je m'endors complètement sur le sujet. Mais bref, j'espère que cette vidéo, ce podcast vous aura plu. Encore une fois, je vous invite à regarder ça sur Spotify, Deezer, Apple Music, ou YouTube, évidemment. Je vous souhaite une bonne soirée, une bonne journée, et à la prochaine pour de nouveaux podcasts. Au revoir.